les émissions des quartiers.
Pour un outil dédié aux habitants.
On m'a formé comme journaliste.
La radio part à votre rencontre.
À Ivry, il se passe des choses qui sont positives. Et juste, c'est juste pour en parler. Une radio, je pense que ça doit servir à ça.
Un espace d'expression complètement libre où chacun peut intervenir.
C'est aussi des rencontres, des échanges avec les jeunes, les moins jeunes.
Il faut parler ensemble, quoi. Faut y aller, faut dire toutes ces choses. C'est peut-être un peu ridicule, mais c'est ce qui fait la vie ensemble.
Les émissions des quartiers
sur Principe Actif. Bonjour, nous sommes la classe de 4e F du collège des 7 épis à Saint-André-de-l'Eure. Nous avons plusieurs projets comme une web radio, web télé et une radio.
Aujourd'hui, c'est notre première émission de radio. L'émission a pour thème « Inventer le monde waouh ».
Et maintenant,
on vous laisse avec JC.
Mais je fais pas partie de cette 4e du collège des 7 épis, là, vous me dites ça. Allez, on va s'occuper du sommaire, vous voulez bien ? Alors, qu'est-ce que vous nous avez préparé durant cette émission et quelle rubrique allons-nous trouver ? C'est sur le conducteur, la page qui est juste devant vous. De quoi allons-nous parler ? Comment est-ce que nous allons inventer le monde ? Waouh ! Alors, on va commencer par quoi ?
On va commencer par écologie, nature et animaux. Ensuite, ville et urbanisme. Ensuite, sport et loisirs. Connaissance et savoir. Sciences et médecine. Échanges humains et solidarité et aider les autres.
Vous écoutez Principe Actif.
Notre spécialité, ce serait d'être les spécialistes de la clarté dans la confusion. Vous me suivez ?
Bon, je récapitule dans le calme.
Principe Actif à Évreux, 102.4. Dans le sud de l'Eure, 95.9.
Enfin, j'espère que vous n'avez rien compris.
Alors, tu veux dire que tu espères que nous avons bien compris ?
Parfait, il n'a rien compris.
Voilà, vous l'aurez compris, ce sont les élèves du collège des 7 épis, les 4e plus précisément, que nous retrouvons au micro aujourd'hui. Et donc on commence par l'écologie, si j'ai bien tout suivi, on retrouve Shana, Solène et Mélina. Ça va les filles ?
Oui.
Voilà, parce que j'ai l'impression que vous ne respirez qu'une fois sur deux là. Non ?
Oui, un peu.
Bon, allez, dites-nous tout. Qu'est-ce que vous nous avez préparé pour ce sujet autour de l'écologie, de la nature et des animaux ?
Donc, on est le groupe écologie, animaux et nature de la 4e F du collège des 7 épis à Saint-André-de-l'Eure.
Notre thème porte sur la pollution, les déchets dans la mer, les effets que ça a sur l'environnement.
Pour vous présenter notre thème, nous avons fait une interview avec l'association Alternatiba et un micro-trottoir au collège des 7 épis que nous lançons maintenant.
À vous, JC.
Que pensez-vous de la pollution ?
La pollution, c'est mal.
La pollution, c'est mal parce que ça... Par exemple, en Chine, ça peut embêter des personnes, ça peut donner des maladies et les tuer.
C'est pas bien. Je trouve que c'est abominable que les gens fassent ça. Parce que la nature, en fait, c'est elle qui nous a créés. Donc, je vois pas pourquoi on devrait lui faire du mal comme ça.
C'est horrible de savoir que la planète est abîmée par des objets créés par l'homme.
C'est une question pas facile, mais la pollution est arrivée à un stade assez problématique. Et je dirais que c'est maintenant qu'il faut s'en occuper, sinon il sera trop tard.
La pollution est un problème important pour les générations futures, qu'il est de notre ressort d'essayer d'y pallier aujourd'hui.
Je pense que c'est un enjeu sociétal super important auquel il faut réfléchir, auquel on aurait déjà dû réfléchir depuis plusieurs années, qui est en train de prendre une ampleur assez importante et pour lequel il faut se battre.
Que pouvons-nous faire pour lutter contre la pollution ?
Arrêter de jeter nos déchets partout.
Ce qu'on peut faire, c'est par exemple enlever les voitures à essence.
Faire du recyclage.
Moi, je pensais d'abord à ce qu'on fasse tous un petit geste. Comme ça, tout le monde nous suivra. Et au final, on luttera tous contre cette... J'arrive pas.
Contre la pollution.
On pourrait faire le recyclage par... gros moyen, c'est-à-dire on pourrait déjà éviter de se tromper avec les bouteilles en plastique et les déchets dans les mauvaises poubelles.
que chacun puisse gérer ses déchets, puisse de moins en moins en créer, et essayer de s'investir dans la nature ou dans une association qui respecte la nature.
Mais respecter les déchets, puis en avoir aussi de moins en moins, essayer de faire du compost au maximum et de faire soi-même les aliments, notamment les yaourts.
Plein de choses, ça passe déjà, alors en milieu rural c'est un petit peu plus compliqué, mais ça passe par le transport, déjà essayer de favoriser le covoiturage, de prendre plus les transports en commun que la voiture. Après ça passe par des choses tout bêtes, le tri, recycler ce qui peut être recyclé, limiter les déchets plastiques quand on fait les courses, rien jeter dans la rue, mettre le plus possible à la poubelle, et puis apprendre ça aux plus petits et à ceux qui sont pas encore au courant.
Que pensez-vous de la pollution dans la mer ?
Bah, c'est mal parce que ça tue des poissons.
La pollution dans la mer, c'est mal parce que ça tue des bébés tortues.
Que c'est pas bien.
Pourquoi ?
Parce que ça tue les animaux qui sont dedans.
Bah, les animaux marins non plus n'ont rien demandé. Et ça les tue facilement. Donc, et aussi, ça peut tuer des oiseaux qui viennent manger. La pollution dans la mer, bah, déjà, ça salit les beaux paysages qu'on a sur la Terre. Et en plus, ça tue les animaux marins et les oiseaux.
Bah, c'est mal entre comme ça, parce que déjà on a été créé pour par la terre, c'est déjà une chance, mais si on la pourrit pour rien,
elle est tellement conséquente que un sixième continent s'est créé, et j'en pense qu'il faudrait surtout agir maintenant avant qu'il soit trop tard.
Mais c'est pour la biodiversité, les animaux marins, ils peuvent en souffrir, et nous aussi, il existe de moins en moins d'animaux marins, et c'est pas forcément bien pour la production.
Bah pareil que la pollution sur la terre, c'est super dangereux, et il faut s'en inquiéter, d'autant plus que sur la terre ça touche les humains et les animaux, mais dans la mer ça touche aussi les animaux, par rapport aux, enfin on voit plein de campagnes avec des images des animaux qui sont pris dans du plastique.
Êtes-vous au courant que pour les conteneurs qui se sont échoués?
Non, j'étais pas au courant.
En fait, il y a des conteneurs qui se sont échoués dans la mer. À La Rochelle, et du coup bah ça a pollué. Qu'en pensez-vous ?
Ah bah j'en pense que bah c'est mal parce que du coup bah ça a dû tuer des millions de poissons.
Bah j'en pense que ça aussi c'est une chose mal parce que ça peut tuer des poissons, des dauphins, des baleines, plein de sortes de d'animaux marins.
Bah c'est pas bien.
Qu'en pensez-vous ? Bah, normalement, il devrait pas y avoir ces problèmes-là parce que les déchets, faut qu'ils soient bien gardés pour pas encore plus abîmer que la planète qu'elle ne l'est déjà.
Oui, je suis au courant et je trouve ça scandaleux, mais je sais pas.
Oui, et puis je pense que ce n'est pas la solution pour les océans et les animaux marins qui sont malheureusement en danger.
Alors. Peut-être pas forcément, mais après, on parle quand même pas mal souvent des bateaux, des fois qui se renversent ou qui échouent, et du coup, je sais pas si c'est ça, ouais, voilà. Enfin, on en parle pas mal, mais en même temps pas assez, ni non plus des risques que ça peut avoir.
Nous nous retrouvons avec Angèle Chotard et Claude Orgioni de l'association Alternativa. Bonjour.
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 Quel est le but de votre association Alternativa ?
Tu veux commencer ?
Non, vas-y.
Alors déjà, nous, on est un collectif d'associations. Et Alternativa, c'est un mouvement national. Donc on n'a pas créé Alternativa Évreux, on a rejoint le mouvement national. Et en fait, c'est un collectif d'associations locales. Et en fait, qui regroupe sur Évreux...
Une dizaine d'associations. Plus des particuliers aussi.
Voilà. Donc ça, à la base, c'est un collectif d'associations. Et bien sûr, après, il y a des citoyens qui veulent s'engager, qui nous rejoignent à titre individuel. Voilà. Et donc le but, c'est avant tout sensibiliser, lutter contre tout ce qui est dérèglement climatique, justement la pollution dont vous parliez, etc. Et donc essayer de proposer des alternatives, puisqu'elles existent déjà.
Comment avez-vous eu l'idée de cette association ?
Alors du coup, il y avait déjà un petit groupe qui existait sur Évreux, qui était encore à l'époque le collectif de la transition citoyenne, qui ça aussi est un collectif d'associations à l'échelle nationale. Et en fait, en 2015, alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu la COP21, ce grand rendez-vous politique, en décembre à Paris. Et donc en fait, c'était un peu l'année où il fallait faire parler du climat et un peu taper du poing sur la table pour que des décisions soient prises justement à cette COP. Et donc le mouvement Alternativa existait déjà depuis 2013 au Pays Basque. Et c'est eux en fait qui ont lancé à l'échelle nationale tous les villages des alternatives en France. Donc en fait après, donc c'est parti du Pays Basque à Bayonne, ils en ont fait un en 2013. Et donc 2015, l'objectif c'était que ça explose un peu partout, qu'il y ait plein de villages des alternatives un peu partout en France. Et donc on en a créé un à Évreux, c'était le 12 septembre. Et voilà.
combien êtes-vous de bénévoles?
On est à peu près une petite centaine.
Quelle sorte d'intervention faites-vous ?
On a divers projets, divers thèmes et divers façons de divers formats, on va dire. Donc on essaie de faire pas mal de sensibilisation. Donc à titre d'exemple, on est intervenu la semaine, on va dire il y a deux semaines. Une fois par an, on intervient là depuis 2 ou 3 ans au lycée Modeste Leroy à Évreux. Donc on a créé un genre de maison des alternatives. En fait, on recrée des pièces avec à l'intérieur des objets. Qui sont un peu des alternatives à la grande consommation, quoi, pour limiter les déchets, la pollution, etc. Des fois, on fait des stands de sensibilisation lors d'événements, quand il y a d'autres associations, par exemple, qui organisent des événements grand public et puis qui nous demandent d'intervenir. Donc, on plante une forêt nourricière à Nétreville. Donc, Claude peut vous en dire deux mots. Et puis, on a lancé 2 monnaies locales. Sur Évreux, donc qui existent déjà, donc le Rollon et l'Aniel, qui sont des monnaies normandes, on va dire. Et donc Évreux rejoint un peu le mouvement pour utiliser cette monnaie locale sur Évreux. Et puis on a une autre commission qui s'appelle les Veilleurs. En fait, on essaie de faire que les gens se rencontrent pour échanger un peu leur technique, leurs alternatives, et que chacun peut donne des conseils à l'autre pour justement limiter nos pollutions et nos déchets chez nous. Voilà en gros.
C'est quoi une forêt nourricière ?
C'est quoi une forêt nourricière ? C'est une forêt qui est libre d'accès à tous et qui, comme son nom l'indique, donne de la nourriture. Et en fait, le but principal de cette forêt, c'est de faire voir aux citoyens que la nature nous offre de quoi nous nourrir. Il suffit de savoir la préserver. Donc c'est aussi différentes pédagogies qui sont mises en place à l'intérieur de cette action-là, qui est dirigée aussi vers l'ornithologie, sur les variétés, les espèces d'herbacées que l'on trouve sur place, surtout l'aspect floristique aussi. Donc on est en lien avec des maisons de quartier et des gens de votre âge, des enfants de votre âge, voilà, qui viennent participer à différentes actions, plantations, etc. Voilà.
Quelle est l'urgence de la pollution en ce moment ?
C'est une très très grande question parce que pour moi, en tout cas, elle est ultime, quoi. C'est-à-dire que là, on est un peu arrivé à un point de non-retour, et que si on n'agit pas tous et dès maintenant, ça risque de piquer un peu plus tard. Donc ça pique déjà, hein, parce que quand on regarde un peu les chiffres, quand on s'intéresse au sujet, on parle d'effondrement de la biodiversité, on a perdu jusqu'à 80% des oiseaux en Europe. Je crois qu'aux États-Unis, ils sont à 90% des abeilles. Enfin, c'est monstrueux, quoi. C'est-à-dire que le problème, c'est comme ça a déjà été évoqué précédemment, on fait partie de la nature. Donc on a besoin de tous ces écosystèmes, on a besoin de... Même toutes les petites bêtes qu'on n'aime pas, ben on a besoin parce qu'elles font partie de l'écosystème et chacun se nourrit des autres, etc. Donc quand il y en a qui disparaissent, ben en fait les conséquences sont dramatiques derrière. Et ce qu'il est temps que les gens prennent conscience, c'est qu'on fait partie de la chaîne. Et donc les conséquences sont dramatiques pour les espèces qui disparaissent, mais par conséquent, elles sont dramatiques pour nous, l'humanité. Donc déjà aujourd'hui... mais aussi et surtout là où il faut vraiment s'inquiéter et n'hésitez pas à bouger les jeunes, c'est que c'est vous qui allez payer les pots cassés, donc n'hésitez pas et rentrez dans le tas quoi. Engagez-vous et battez-vous quoi.
Que pourrions-nous faire pour diminuer cette pollution?
Tu veux intervenir? Il y a plein de choses, il y a plein de choses à faire. Alors des fois on peut se trouver limité, on peut se dire oui mais en Chine ils polluent, oui mais les politiques, etc. Alors c'est vrai, c'est sûr qu'on ne pourra pas, c'est pas une association ou un citoyen de son côté qui va faire changer la donne, mais le si peu qu'on peut faire, on doit le faire. Donc il y a les petits gestes du colibri, hein, la légende du colibri qui est chère à Monsieur Pierre Rabhi, qui dit qu'en gros... on a tous notre responsabilité, on a tous notre petite part à faire, quoi. Donc même si ça représente pas grand-chose de recycler un peu ou de faire attention, de d'éteindre l'eau ou d'éteindre les lumières, etc. Bah ça représente peut-être pas grand-chose, mais on doit le faire. C'est un devoir. C'est un devoir pour nous aujourd'hui, pour la nature et pour les générations à venir, quoi.
Merci pour cette interview, Claude et Angèle de l'association Alternativa.
Avec plaisir.
Très bien. Je vous envoie un peu de musique, les filles.
Oui. Oui.
Eh bon, on fait ça comme ça alors.
Ça tout dit.
Allez. Donc,
ouais, c'est bon.
C'est bon.
Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone. So leave a message at the tone. Cause today I swear I'm not doing anything. I'm gonna kick my feet up, then stare at the fan. Turn the TV on, throw my hand in my pants. Nobody's gonna tell me I can't. Nah, I'll be lounging on the couch, just chilling in my snuggie. Click to MTV so they can teach me how to Dougie. Cause in my castle, I'm the freaking. Really nice sex, and she's gonna scream out, this is great.
Oh my god, this is great.
Yeah, I might mess around and get my college degree. I bet my old man will be so proud of me. But sorry, pops, you'll just have to wait. Oh.
Bruno Mars, c'était le titre que je vous avais choisi. Ça allait, je me suis pas trompé dans la sélection.
Non, c'était bien.
C'était bien.
Oui.
Ouais, ça va. Bon, bah, alors, si ça vous va, c'est parfait. Nous poursuivons du coup avec Raphaël, Alicia et Mathis qui, eux, voulaient nous parler de la ville et de l'urbanisme de manière générale, si j'ai bien tout suivi. Qu'est-ce que vous nous avez préparé, les jeunes?
Alors, bonjour JC et bonjour à tous. Nous allons vous parler de la ville et l'urbanisme, où nous allons débattre sur comment améliorer la ville. Nous avons choisi ce sujet car il y a beaucoup trop de problèmes dans les villes et nous voulons débattre sur comment faire pour l'améliorer. Et pour finir, nous ferons un petit jeu quiz pour en apprendre plus sur les villes.
Ah bah super, voilà, bah de quoi s'amuser, c'est ça l'idée, hein?
Ouais.
Parce qu'on veut bien parler sérieusement, mais on a envie de s'amuser tout de même, hein. Oui. C'est ça l'idée?
Ouais, c'est oui. Ça.
Ah bah voilà. Je crois que vous êtes venus également avec des invités. Bah, je vous propose de nous les représenter parce qu'ils n'ont pas quitté, à table. Mais pour les auditeurs qui nous prennent en chemin, représentez-nous vos invités et dites-nous ce qui va se passer.
Donc on se retrouve avec Claude Ordioni et Angel Chotard d'Alternativa. Donc bonjour à vous.
Bonjour.
Donc nous avons plusieurs questions à vous poser. Donc passons à la première question.
À votre avis, quel est le plus grand problème des villes?
Il y en a plusieurs. pour moi, le plus grand problème serait surtout lié à la mobilité.
D'accord.
Donc tout ce qui est l'engorgement, la circulation et peut-être le manque de place pour la mobilité douce, c'est-à-dire les vélos, les piétons, etc. Donc peut-être que dans les priorités, ce serait redonner l'espace public aux piétons et du coup redonner la sécurité qui va avec et puis... Ouais. De l'air un peu plus respirable, entre autres. Ainsi que les nuisances sonores, qu'il ne faut pas oublier, qui peuvent être très dérangeantes.
Donc, si vous étiez maire, que feriez-vous pour améliorer les villes?
Plein de choses. je pourrais aussi
Déjà, oui, diminuer le trafic routier, en favorisant justement les déplacements doux, c'est-à-dire vélo, piétons, et augmenter aussi les transports collectifs, en essayant de les rendre au moindre coût. C'est-à-dire qu'on dit que la justice climatique, c'est aussi la justice sociale. Donc il faut pas pénaliser les gens qui ont un pouvoir d'achat qui est moindre. Donc voilà en gros ce que l'on peut envisager de faire.
Moi, dans les priorités aussi, je trouve que c'est très très important, c'est revégétaliser. C'est-à-dire remettre des fleurs, enfin surtout des arbres partout, quoi. Il est prouvé que la place de l'arbre dans la ville est primordiale. Donc là, dans toutes les villes, on les abat, mais en fait, ce qu'il faudrait, c'est faire le contraire, c'est les replanter. Par exemple, l'été, en période de canicule, on est content d'être à l'ombre d'un arbre. Et c'est aussi prouvé qu'en période de forte chaleur, ça régule aussi la température au sein des villes.
Voilà. Donc ouais, je suis d'accord avec vous sur ça, mais comment feriez-vous pour l'espace naturel, sachant que des gens ne veulent pas de nature, ils sont plus urbains, donc sur les appartements et tout ça. Donc que feriez-vous pour remettre des espaces naturels dans les villes, sachant qu'il y en a qui n'en ont pas beaucoup?
Moi, justement, j'ai une question en réponse. Est-ce que tu es sûre que les gens ne veulent pas d'espace naturel dans les villes?
Oui, je connais des personnes qui ne sont pas pour avoir des espaces naturels dans les villes.
C'est vrai, parce que moi, personnellement, quand je me balade, et même quand tu vas en ville, même dans les plus grandes villes, sans parler d'Évreux, regarde, quand il fait beau, où vont les gens?
Dans les parcs.
Voilà. Exactement. Et regarde, moi j'habite pas très loin de la voie verte, j'en profite régulièrement. Bah, dès qu'il y a un rayon de soleil, tu vois les petits vélos, les enfants sur les petits vélos, même les adultes, les poussettes, les gens à pied, les gens qui courent le long de la voie verte. Ces gens-là, ils sont pas en ville. Ouais.
Ainsi que dans le centre-ville, là, tout au bord de Liton. Dès les beaux jours, il y a des gens qui viennent prendre leur repas au bord de l'eau. On voit qu'ils sont ravis d'être entre les canards et les oiseaux. Et il y a des sites de promenade et de repos qui sont privilégiés dans les centres-villes. Et ce sont justement sur les espaces naturels, dits naturels. Non.
Comment est gérée la pollution vis-à-vis des usines?
Vas-y Claude, je te laisse.
Alors comment gérer? Eh bien, il faut qu'il y ait des organismes qui surveillent effectivement. Alors ça, ils existent déjà. Il faut savoir qu'il y a des organismes qui vérifient que les différentes industries polluent le moins possible. Comment? Ben, en leur obligeant à trier toutes leurs ordures. Ensuite, aussi, par exemple, dans tout ce qui est cheminée, on voit qu'il y a souvent des cheminées dans les zones industrielles. Mais elle les oblige à mettre des filtres en sortie de cheminée, par exemple, pour éviter d'avoir un maximum de pollution. Il y a aussi, pour d'autres industries, la vérification du rejet des eaux qui ont été polluées. Donc, ils doivent les dépolluer avant de les remettre dans le réseau. Mais bon, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup à faire et beaucoup mieux dans ce domaine-là. Ouais.
Donc, les voitures, on sait que c'est très polluant et vous parliez d'autres moyens de transport. Donc comment feriez-vous? Enfin, quel autre moyen de transport prendriez-vous à part les voitures?
En ville déjà, moi je trouve pas ça très commode de circuler en voiture. Bon, encore Évreux, ça va, on est une petite ville, c'est pas trop engorgé. Mais moi déjà, enfin à titre personnel, je circule beaucoup à pied et à vélo. Et sinon, dans le meilleur des cas, utiliser donc soit au cœur des villes le bus, bien sûr. Quand il y en a, ou alors les trams dans les plus grandes villes, les métros, etc. Et puis sinon, pour voyager un peu plus loin, le train. Mais là aussi, c'est un problème individuel, mais c'est surtout un problème politique, parce que quand vous voulez prendre le train, mais qu'il n'y a plus les petites lignes, que vous êtes dans un petit village et que la gare a été, l'arrêt de gare a été supprimé, j'avoue que ça devient problématique.
Du coup, je vais rebondir sur ce que vous venez de dire en vous disant... Comment gériez-vous la pollution des voitures? Donc vous avez dit que vous vouliez arrêter de la prendre, mais il y a des gens qui ne sont pas de votre avis. Donc comment répondriez-vous à ces gens-là?
On sait que le diesel, les moteurs diesel polluent énormément. Donc effectivement, il faut essayer de valoriser les autres voitures, celles qui sont à essence, et puis celles qui sont hybrides aussi, qui fonctionnent sur deux énergies. Il faudrait aussi faire en sorte que les constructeurs automobiles fassent dans la réalisation de leur nouveau moteur une conception qui soit adaptée justement pour ne pas polluer. Il faut savoir qu'effectivement on a des contrôles techniques qui vérifient justement la pollution des voitures, mais on s'est aperçu il n'y a pas si longtemps qu'il y a en fait les constructeurs mettent au départ un boîtier électronique qui intervient lors de la procédure des contrôles techniques et qui fait que votre voiture ne pollue pas. En fait, elle pollue en condition normale d'utilisation. Elle pollue énormément. Et comme il y a une procédure bien spécifique sur les contrôles techniques, à ce moment-là, il y a un boîtier électronique qui est mis en place au départ par les constructeurs, qui agit sur la procédure et qui fait qu'on vous dit « non, votre voiture ne pollue pas ». En fait, elle pollue. Donc, c'était un scandale qui est un peu... d'ailleurs, je crois que c'est un scandale qui pourrait être attribué à toutes les marques automobiles. Voilà.
Comment feriez-vous pour trouver de l'espace pour installer des espaces naturels?
Déjà, on pourrait commencer par arrêter de construire, là, de détruire déjà ce qui existe. C'est-à-dire qu'il y a déjà les espaces naturels qui existent déjà. On devrait commencer par les préserver plutôt que de toujours étendre les villes et puis avoir à faire une expansion sans fin. Là, on le voit dans toutes les petites villes. D'ailleurs, après, il y a comme conséquence que les centres-villes meurent. Il n'y a plus de petites boutiques, il n'y a plus de petites... même à Évreux, on le voit quoi, dans toutes les petites villes. De toute façon, ça, c'est un problème... Un problème national. Donc déjà, préserver ce qui existe déjà en termes d'espace naturel. Et après, utiliser ce qui existe déjà en bâti plutôt que d'aller construire ailleurs. Il y a beaucoup de bâtiments qui ne sont plus utilisés ou qui sont en train de tomber en ruine. Eh bien, réhabilitons, rénovons et puis réutilisons ce qui existe déjà.
Et puis, je pense qu'on peut aussi, vous avez déjà entendu parler, je pense qu'en terrasse, on peut commencer à aménager aussi des jardins, même quelques cultures. Et il y a aussi maintenant une procédure qui fait qu'on peut mettre en place des murs végétalisés. Voilà. Donc ça, voilà. Sur ce qui existe actuellement. Maintenant, quand on prévoit les choses, effectivement, il faut admettre que lorsqu'un promoteur dépose un plan de d'urbanisme, enfin, et pour faire du bâti collectif, il faut que il corresponde, que ça corresponde à des normes environnementales, de façon à ce qu'après on soit pas dans justement le problème de subir ce qui a été mis en place, que généralement on diminue le plus possible les terrains justement dits nature, de façon à essayer de valoriser entre guillemets au mètre carré le plus possible. Voilà, c'est-à-dire que voilà, plus on met de logements, plus ça rapporte. Et ben non, il faut inverser ce système-là.
Ouais. Donc pour trouver des espaces naturels et installer des jardins, donc ce serait donc mieux de vivre dans une maison qu'un appartement ?
Non, je pense pas. Non. On peut justement l'implantation des collectifs ont été bien pensés. Je pense qu'on peut avoir effectivement de beaux espaces naturels à proximité. Et aussi, il faut se dire aussi que la vie, par exemple, en appartement, c'est donc en immeuble, c'est-à-dire que c'est une vie où on partage des choses avec ses voisins. Ça peut être une vie de convivialité, autant que dans une maison qui est à l'écart et qui ne pose pas plus d'avantages. Enfin, à mon avis, c'est pas rédhibitoire comme le fait d'habiter un appartement. C'est pas le fait d'être dans un environnement qui n'est pas forcément agréable. Il suffit de l'avoir pensé au départ.
À votre avis, c'est mieux de vivre dans un espace naturel ou industriel, mais sachant que les espaces naturels ne doivent pas être trop nature non plus. Enfin, faut pas qu'il y ait que de la nature dans la ville. Donc vous, qu'est-ce que vous voulez vivre où ? Dans un espace naturel ou dans un espace industriel ?
Est-ce que quand tu dis industriel, tu veux pas dire plutôt urbain ?
Oui, plus urbain, c'est... du vert, mais pas trop non plus. Un peu de nature, mais pas trop non plus.
Ah bah après, chacun, comme on dit, chacun voit... je me vois midi à sa porte. Moi, à titre personnel, par exemple, je me vois beaucoup plus vivre à la campagne. Je me vois plus entourée de champs qu'entourée de bâtiments. Mais après, comme dit Claude, il y a des gens qui se sentent très bien dans un appartement. Il suffit qu'il y ait un parc pas très loin, à proximité. Ça suffit. Après, il est aussi prouvé que les gens qui sont... déconnectés à la nature sont plus fragiles. Je crois qu'il y avait une étude dont j'avais entendu parler. C'était, il me semble, dans une prison ou un hôpital. Donc des gens qui étaient enfermés, qui ne pouvaient pas bouger. Ceux qui avaient juste la vue, hein, je ne parle même pas d'aller se promener, juste ceux qui avaient la vue sur le parc se portaient beaucoup mieux. Alors, je ne sais plus si c'était la santé ou si il y avait quelque chose de très positif, juste d'avoir la vue sur le côté parc plutôt que sur le côté cour ou sur un autre bâtiment, quoi. Donc c'est voir l'impact de la nature sur l'être humain.
Quel changement apporteriez-vous à la ville ?
Bah, on a déjà un peu abordé plus ou moins le sujet.
Ouais.
Donc, c'est-à-dire revégétaliser et puis encourager tout ce qui est mobilité douce, rendre l'air plus sain, la circulation plus fluide, redonner la place à des petites boutiques, les petits producteurs, relocaliser aussi l'économie, quoi. Ça passe aussi avec la monnaie locale dont on parlait tout à l'heure, quoi.
Et quand on dit que voilà, il faut vraiment préserver les espaces naturels en ville, c'est aussi c'est pas simplement que un aspect de pollution, c'est aussi un aspect humain, c'est-à-dire dans la mesure où ces espaces-là offrent des endroits de convivialité et de partage. Hein. Les gens peuvent se rencontrent, se parlent, et c'est le citoyen a besoin de ça. Voilà, l'humain aussi.
D'accord, donc que penseriez-vous d'une ville sous-marine ?
J'avoue qu'on a du mal à y penser parce que ça nous paraît un peu difficile. Moi, je pourrais, avant de penser à une ville sous-marine, je pense qu'il faut vraiment préserver nos océans. Et là, vous avez entendu parler du sixième continent qui est composé en fait de plastique qui couvre des milliers de kilomètres carrés dans le fond des océans. Et je ne sais pas si vous avez vu des images de ça, mais voilà, ça veut tout dire. C'est-à-dire qu'on voit des sacs plastiques qui s'empilent. Et en fait, l'eau, c'est marron. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune flore. Et puis, évidemment, il n'y a plus de vie aquatique au-dessus, sous-marine. Donc, il n'y a plus de poissons, il n'y a plus rien. Donc, ça veut dire qu'on est en train de mourir toute la vie, enfin la vie qui nous sert, parce que on s'alimente aussi avec ça, donc voilà, on s'autodétruit rien que par ces fameux plastiques là que l'on jette un peu partout.
Voilà, le temps avançant, je me permets, les jeunes, c'est passionnant l'échange que vous avez. Je sens bien que vous pourriez rester des heures à discuter. J'ai envie que nous passions pour le déroulement de cette émission directement à la partie d'après, peut-être inviter Angèle et Claude à jouer, non? C'était ça l'idée, non? Allez, racontez-nous sur quoi vous partiez là.
On avait un petit quiz à vous proposer.
Ok, c'est le quiz surprise.
Ah bah oui, tant qu'à faire. Alors, comment ça se passe? Il y a plusieurs questions, mais vous leur proposez un choix multiple, c'est ça?
Il y a trois réponses et il y en a une de bonne.
Ok, trois questions, une de bonne.
On écoute,
c'est parti.
Quelle est la ville la plus polluée au monde? Réponse A, Delhi. Réponse B, Dakar. Réponse C, Saint-André.
Alors, je pense pas que ce soit la C, j'espère pas pour vous. alors, il me semble que Dakar, pour en revenir il y a quelques semaines, c'est marrant que vous me posiez la question, c'était la deuxième ville la plus polluée. Alors du coup, je dirais Delhi.
Oui.
Ouais. C'est ça.
Donc, quelle est la ville française, selon vous, la plus verte? Donc, réponse A, Angers. Réponse B, Lyon. Ou réponse C, Saint-André.
Alors, je crois qu'Angers est très bien placée. Ouais. Je vois qu'il y avait Nantes aussi.
Avec Grenoble aussi.
Mais alors, pour la première place, moi, je dirais Angers.
Ouais,
on dit Angers? Ouais, bon, on dit Angers.
C'est encore une bonne réponse.
Ouais. Ouais, j'espère qu'on a une récompense après. C'est quoi, un voyage aux Seychelles?
pas de voyage.
On a fait une question un peu plus drôle qui s'égare un peu du sujet. Voilà, c'est quel est le moyen de transport le plus fun à Paris? La montgolfière, le carrosse ou la trottinette électrique?
Le plus fun?
Oui, c'est ça.
C'est la trottinette, je pense.
Ouais, la trottinette, ça me paraît pas mal.
Bah, c'était un petit sondage, donc il n'y a pas vraiment de bonne réponse.
Alors moi, je me verrais bien faire du carrosse à Paris, franchement.
Quelle est la ville la plus moderne au monde? Réponse A, Dubaï. Réponse B, Pékin. Réponse C, Tokyo.
Ah, c'est dommage, j'aurais dit Saint-André cette fois, mais bon. Alors ça dépend ce qu'on entend par moderne, mais ouais, Dubaï, je vois bien...
Ah, oui, c'est
remarque qu'à Tokyo, ouais, les Japonais sont pas mal en modernité non plus. Ouais. Ils sont très high-tech. Bon, allez, vas-y, je te laisse répondre.
Non, vas-y, Dubaï, pourquoi
allez,
pas.
Dubaï.
Bah non, c'était Pékin.
Ah bah Pékin.
Ah bah voilà.
Nous, on a été autant surpris que vous quand on a su la bonne réponse.
C'est vrai, ouais. Ok. Ouais.
Donc, quelle est la ville, selon vous, qui attire le plus de visiteurs au monde? Entre Dubaï, Paris et Bangkok.
C'est Paris, hein.
Ah bah c'est Paris, normalement. Non, ça a été Paris pendant très très longtemps. Je pense que c'est encore Paris, à moins que ça ait changé récemment. Mais...
Non, la bonne réponse, c'était Bangkok.
Ah. Bah, tu vois, j'aurais appris quelque chose aujourd'hui.
Quelle est la ville la plus peuplée au monde? Réponse A, Tokyo. Réponse B, Sao Paulo. Ou réponse C, Mexico?
Je crois que c'est Mexico.
Ah ouais? Je dirais ça, moi aussi.
Allez, on dit Mexico.
C'est bon, c'est pas ça.
Non, c'était Tokyo.
Ah, on va pas avoir notre séjour au Seychelles.
Heureusement.
Alors maintenant, on va faire une petite question bonus qui n'a pas de rapport avec la ville et l'urbanisme. Alors, où est le cimetière militaire allemand le plus grand en Europe? Réponse A, Paris. Réponse B, Verdun. Réponse C, Saint-André.
C'est Verdun. Je pense que c'est Verdun, oui. Bien sûr. C'est Verdun, oui.
Non, c'est Saint-André.
Ah, c'est lui. Fallait bien qu'il s'entendrait.
Oui, bien sûr.
J'aurais vraiment appris des choses, moi, aujourd'hui.
Donc, c'est la fin du quiz. Donc,
très bien.
On remercie à Claude Ordioni et Angèle Chotard d'Alternativa d'avoir répondu à nos questions.
Ouais, merci
et
à vous.
Et merci d'avoir pris le temps de nous écouter. Donc, on va tout de suite lancer le prochain groupe. Vas-y, JC.
Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry, be happy.
Look at me, I'm happy. Don't worry, be happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy.
Don't worry, be happy. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile. But don't worry, be happy. Cause when you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, don't worry, don't do it. Be happy.
Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this.
Don't worry,
it will soon pass, whatever it is.
Don't worry, be happy.
Voilà, vous êtes toujours avec les 4e F du collège des Sept Épis à Saint-André-de-l'Eure. Ils ont décidé d'inventer le monde. Waouh, c'était le titre de cette émission. On a parlé écologie, on a parlé urbanisme, mais je crois que nous sommes pas au bout de nos surprises. Nous avons Baptiste, Matisse et Alban qui ont également un sujet tout aussi essentiel à aborder. Bonjour les gars, comment ça va déjà?
Bonjour.
Bonjour,
ça va bien?
Oui, ça va bien.
Bon. Alors de quoi est-ce que... Merci, moi ça va, c'est gentil de me poser la question. De quoi allez-vous nous parler et comment vous avez organisé cette prise de parole?
On va faire une chronique,
ouais.
Présentée par moi-même, Baptiste et Mathis.
Donc bonjour, pour nous l'école idéale serait de commencer l'école à 10h30 en faisant des maths ou du français ou de l'art plastique, etc. Pour aller manger à 12h30, puis recommencer à 14h, ce qui nous laisserait 1h30 de temps libre. Et pour finir, on pourrait faire plusieurs sports jusqu'à 16h, puis on aurait fini les cours. Et toi, Baptiste, tu en penses quoi des changements de cette école?
Donc, bonjour. Les changements de cette école idéale seraient qu'on pourrait apprendre nos leçons en s'amusant. Par exemple, on pourrait faire des jeux pour les apprendre ou apprendre normalement. puis ne pas être beaucoup dans les classes, par exemple à peu près 15. Et au lieu de lire des longs livres, bah on lira des BD. Toi, Alban, tu penses quoi des changements des personnes?
Bah, les personnes seront plus sportives, car elles font plus de sport. Et il y aura plus de profs, comme il y aura plus d'élèves.
Mais c'est plutôt une bonne nouvelle, ça, cette école, non?
Oui.
Eh bien, c'est parfait. On poursuit?
Oui.
Okay. Parce que vous n'étiez pas seul à vouloir discuter aussi de comment voir l'école autrement, non? Je crois que vous êtes venu avec un invité.
Oui.
Oui.
Allez, vous nous le présentez et puis bah, échangez avec lui, alors, à ce moment-là.
Donc, bonjour, nous sommes en compagnie de Arnaud Leblanc, qui est notre invité aujourd'hui.
Bonjour.
Et bonjour.
Donc, à quoi sert l'école?
L'école qu'on va créer?
Alors oui, l'école, vous n'avez pas dit quand même pourquoi est-ce que Arnaud Leblanc était votre invité autour de cette question de l'école. Pourquoi ça?
Parce qu'on parlait... Enfin...
Ouais, vas-y, dis-nous. Non, dis-nous. C'est pas... On parlait d'école alternative quand même, oui, en préparant cette émission.
Oui, voilà, d'une école alternative.
Et puis on s'était dit qu'il y avait d'autres façons d'apprendre, non?
Oui, voilà.
Et puis on a cherché, on a trouvé un autre modèle d'école.
Oui.
Et voilà. Et donc Arnaud, justement, fait partie de ces personnes qui développent ce projet d'une autre pédagogie. C'est ça?
Oui.
Ah, disons, vous dites plus rien maintenant que nous sommes arrivés au micro. Hein. Tout ça, on se l'était dit avant. Oui. Bah oui, parce que c'est pour ça que nous invitons Arnaud Leblanc.
Oui, c'est pour
ça. Bon, allez, je vous laisse échanger avec Arnaud, du coup.
Donc, à quoi sert l'école que vous avez créée?
Oui, c'est pas la question de la fonction de l'école, en fait, c'est pas une mauvaise question, je trouve. À quoi est-ce qu'elle peut servir? Et c'est ça, peut-être ça dont il faut partir, en fait. Nous, alors, l'école qu'on veut créer et qui devrait ouvrir ses portes à Évreux en septembre, on l'a appelée école démocratique, mais on aurait pu l'appeler également école de la liberté, par exemple. Ça veut dire que école de la liberté, c'est une liberté, c'est la liberté, c'est en fait l'exercice de la liberté, quoi. Donc nous, l'école qu'on a créée, la fonction principale, en fait, c'est de pouvoir permettre de faire vivre aux membres, en fait, qui sont au sein de ce collectif, une expérience de liberté, ce qui nous semble être pas tout à fait le cas, en fait, dans les écoles classiques. Pas du tout, pour ainsi dire.
D'accord.
Quelle différence avez-vous dans cette école avec les autres écoles?
Alors, la suite de ce que je viens de dire, c'est que là, j'ai expliqué la notion de liberté. Il y a la notion de démocratie, peut-être que je peux éclairer également. Elle s'appelle démocratique parce que il y a un conseil d'école au sein de cette école-là qui réunit l'ensemble de ses membres, c'est-à-dire les membres jeunes et les membres adultes, et qu'au sein de ce conseil d'école, il y a chacun a une voix égale. Ça veut dire que un enfant de 3 ans, 4 ans, 5 ans aura le même impact en fait dans l'élaboration du règlement intérieur que le directeur. Donc tout est toujours discutable, et notamment le règlement intérieur.
Est-ce que cette école est pour tout le monde?
Oui, elle est pour tout le monde dans l'idée. Malheureusement, pour l'instant, nous, on va être ce qu'on appelle une école privée hors contrat. Ça veut dire qu'elle n'est pas pour l'instant vraiment pour tout le monde. Tant que l'État n'aidera pas financièrement notre école, c'est-à-dire que le coût, en fait, enfin, toutes les dépenses qui sont liées au fonctionnement d'une école appartiendront aux familles. Donc, les gens qui sont pour l'instant sont pas, comment dire, n'ont pas assez d'argent, pourront pas pour l'instant accéder à cette école-là. Mais on travaille par ailleurs à faire que ça soit possible dans un avenir proche.
D'accord. Combien d'élèves y a-t-il environ dans l'école?
Alors là, pour démarrer, on va démarrer dans des petits locaux. Donc on va partir sur un effectif, à moins un collectif d'une vingtaine d'enfants. 20, ouais, à mon avis, ça va être le maximum. Et moi, j'espère une école où on arriverait à un collectif de, je sais pas, 60, 90 membres peut-être. Ça me paraîtrait pas mal, parce qu'on a besoin d'un dynamisme, en fait, au sein. Et c'est le collectif qui le fournit, quoi. Oui.
Donc, combien y en a-t-il de cette école en France?
Alors, on peut parler d'une vague. Nous, on se réfère à un modèle, en fait, qui s'appelle l'école Sudbury, qui s'est créée aux États-Unis il y a une cinquantaine d'années. Ça a été la première. Il y en a eu d'autres à travers le monde qui se sont créées par la suite. Pas mal. Et ça arrive en France aujourd'hui. Il y en a, ça fait 6 ans, la première école s'est créée à Dijon. Et depuis, je crois qu'il y en a entre une trentaine et une quarantaine en fonctionnement en France, et il y en a au moins autant en projet. Et donc, il y en a, donc, dans, je sais pas, dans 2-3 ans, il y aura peut-être 80 écoles en France, et il y en a 4 ou 5 en projet dans la région, quoi, dont une à Évreux. Quoi.
D'accord. Comment se déroule une journée normale ?
Alors, on ne sait pas trop en fait comment se déroule une journée normale, puisqu'elle est le planning est créé. J'ai bien aimé votre chronique. Je pense que notre fonctionnement s'inspire un petit peu de ce que vous avez décrit. Je pense qu'on est même allé. Vous n'avez pas encore osé rêver assez loin, quoi. Et que un membre qui arrive à l'école le matin, en fait, décidera entièrement en fait de son planning de la journée. Quoi. Ça veut dire que si quelqu'un n'est pas inspiré, par exemple, par les mathématiques, eh ben, il a tout à fait la possibilité pendant les mois ou les années, ça lui appartient en fait de décider s'il va apprendre des mathématiques ou pas. Quoi. Nous, ce qu'on veut privilégier en fait, c'est de réouvrir de l'espace et du temps. Ça veut dire que les membres de l'école, en fait, ont de l'espace et du temps qui leur appartient. Pour être à l'exercice de leur liberté. Donc la question du planning, en fait, elle appartient, elle est construite par les individus ou par un groupe d'individus, en fait, qui veulent construire leur journée ensemble. Ça veut dire qu'ils peuvent élaborer des cours, en fait, s'ils veulent apprendre les mathématiques. Il n'est pas question qu'on interdise, c'est très intéressant les mathématiques, hein, c'est pas ça. Mais ce qui nous semble pas intéressant, en fait, c'est que un groupe de personnes au-dessus, en fait, décide, en fait, que ça doit être fait, en fait, plus qu'autre chose, au dépit de je sais pas quoi, de la mécanique, du jardin, voilà. Pour nous, il n'y a pas de matière reine, en fait, quoi.
D'accord. Combien coûte l'école, région ?
Alors, c'est pas encore complètement délibéré, mais je vais quand même vous donner un prix pour vous donner une idée. On serait sur 350 euros par mois, en fait, c'est-à-dire 3500 euros à l'année, quoi.
Moi, Arnaud, j'avais une question. Pardon, les jeunes, mais il y a une question qui me tardait. On avait dit qu'on était en discussion, hein, ouais, c'est bah ça ouais. Hein, bah oui, bien sûr. Moi, il y a une question qui me taraude, c'est oui. Cette notion de pédagogie, en fait. Oui. Qui va enseigner et est-ce que ce sont des enseignants ou des éducateurs qui font partie d'un circuit plus ordinaire ?
Alors, c'est pas comme ça qu'on va les appeler, en fait, parce qu'il n'y a pas de position d'enseignant, justement. En fait, il y a des membres adultes qui sont là, qu'on appelle le staff. On peut les appeler les facilitateurs d'apprentissage. Je trouve ça un peu moyen comme intitulé, mais enfin pour l'instant on les appelle comme ça. Mais donc il n'y a pas d'enseignant en fait, parce que qui dit enseignant dit enseignement. Or on n'est pas dans cette position là de verticalité. La verticalité, j'entends par là, ça veut dire quelque chose qui descendrait en fait d'en haut, comme par exemple dire ce qui est important c'est les mathématiques, et dire donc du coup comme moi je trouve en fait que c'est les mathématiques qui sont importantes, vous allez tous apprendre les mathématiques. Ça c'est la verticalité en fait. L'horizontalité en fait c'est la possibilité pour chacun en fait de participer en fait à cette discussion en fait sur ce qui est important ou pas quoi. Donc les enseignants en fait parfois Suzy ma fille qui est à côté de moi en fait peut tout à fait se révéler comme étant quelqu'un en fait qui va pouvoir m'apprendre quelque chose en fait. Et bien souvent en fait d'ailleurs elle m'apprend quelque chose si je me mets dans cette posture là en fait d'avoir quelque chose à entendre d'elle. Si je me positionne simplement en fait comme quelqu'un qui dit que c'est moi qui sais et que elle doit juste écouter ce que j'ai à dire, et ben c'est comme ça que les choses se passent. Évidemment je suis le plus fort, c'est moi que... Vous voyez ce que je veux dire, donc c'est la restauration en fait d'un ordre qui appartient à, dont la création appartient à tout le monde, donc pas d'enseignant.
D'accord.
Quand je me pose la question de une fois voilà être passé par un système éducatif de ce type, parce qu'on parle oui. bien d'éducation, hein, oui. au final beaucoup plus largement que d'enseignement, comme vous le signalez. Quand on sort de ce système, finalement, est-ce que finalement on est condamné à réinventer le monde pour refaire le lien avec le sujet notamment des jeunes, ou finalement parce qu'il va être difficile de rentrer dans un circuit plus ordinaire ensuite en sortant de ce type d'éducation, non? Est-ce que ça c'est pensé, par exemple, en se disant, bah voilà, comment est-ce qu'on raccroche après, par exemple, des études supérieures ou des choses comme ça qui sont pas forcément aujourd'hui proposées par des pédagogies alternatives?
Alors pour l'instant, en fait, nous en France, on a 5-6 ans en fait de recul là-dessus, mais on se réfère en fait à ceux qui ont l'expérience de 50 années d'expérience de ça. aux États-Unis, en tout cas, ils ont fait des études, des statistiques, en fait, sur les enfants et les adultes qui ont vécu leur vie après Sudbury. Ils disent que 80% en fait de leur effectif a accédé à des écoles, des études supérieures. Quoi. Alors nous, je ne sais pas comment ça va se passer. Je reviens d'une semaine d'immersion à l'école dynamique de Paris sur un effectif de 40 à 45 membres. Il y en a une dizaine en fait qui étaient en train de préparer leur bac de français, par exemple. Ça veut dire que c'est en fait dans notre idée en fait, ça vaut le coup de consacrer, je ne sais pas, 10 ans, peut-être 15 ans de son existence, de sa jeune existence en fait à comprendre, à savoir en fait véritablement ce qui nous motive. Et à partir de là, je dirais que passer son bac en fait est relativement accessoire une fois qu'on est sûr qu'on doit l'avoir en fait pour accéder à quelque chose, quoi. Donc concrètement en fait, il y a certains étudiants qui peuvent consacrer 3 mois en fait à préparer leur bac. Il y en a qui peuvent passer 6 mois à le faire, mais je dirais même si ils y consacrent 2 ans, c'est rien en comparaison de 15 ans, quoi. On est d'accord là-dessus. Donc pour nous, l'aberration en fait, c'est d'être assis toutes ces heures, c'est pendant ces 15 années en fait de scolarité en fait à la préparation, à ne penser en fait qu'à la préparation d'un diplôme qui dans 10 ans de ça en fait n'aura peut-être plus aucune importance au sein de la vie professionnelle.
J'avais envie de questionner un petit peu les jeunes parce que là vous découvrez une façon d'aborder l'éducation. Oui. Oui. J'imagine vous découvrez, hein, c'est ça l'idée. Oui, hein, vous en pensez quoi là du coup de cet échange avec Arnaud qui vous explique une autre façon d'aborder l'éducation de manière générale? Vous en pensez quoi, vous?
Que c'était intéressant.
Ouais. C'est inspirant ou pas? Ça fait quelques semaines qu'on est en train d'inventer le monde waouh. Est-ce que ça c'est une idée pour inventer le monde waouh?
Oui. Bah oui.
Totalement.
Ouais. Oui. On serait partant pour s'inscrire là?
Oui.
Très bien, je vous laisse conclure les jeunes.
Merci d'avoir répondu à nos questions.
Avec plaisir.
On était avec Arnaud Leblanc.
Et puis voilà, c'est ça. Ça vous laisse sans voix, j'ai l'impression. Là. Ça y est, d'un seul coup, on repense l'accompagnement éducatif. Ça vous laisse sans voix. Merci beaucoup, Arnaud, d'être passé par nos micros.
Merci.
Qu'est-ce qu'on fait, les jeunes? On repart en musique? On se fait quelque chose? Ouais.
On repart en musique.
On repart en musique? Eh bien, c'est parti, alors. Quincy, ça c'est un choix de ma part à moi. Nous poursuivons cette émission en recevant maintenant au plateau Mamadou, Mozan, Nathan, Théo, qui vont nous parler de sport et de loisirs. Bonjour à vous, vous allez bien déjà? On va commencer par ça.
Oui, bonjour.
Ouais, c'est ça. Tout à l'heure, j'en entendais un qui disait « ça y est, mon cœur bat ». C'est oui. Ça? Il battait pas avant?
Non.
Mais il bat maintenant?
Oui.
Ça, tu l'as bien ressenti. Très bien. De quoi allez-vous nous parler, vous, aujourd'hui? Comment est-ce que vous avez organisé ça?
Alors, bonjour JC, nous sommes les 4F et nous avons choisi le thème sport et loisirs.
Ouais.
Sous forme de de chronique et de micro-trottoir.
Très bien, on commence par quoi?
Micro-trottoir.
Eh ben, on envoie ça alors?
Oui.
Dans le cadre des jeux et loisirs, que pensez-vous des jeux vidéo?
Les jeux vidéo sont bien, il ne faut juste pas être addict. J'aime beaucoup jouer aux jeux vidéo.
Alors, les jeux vidéo, je pense que ça prend beaucoup de temps aux jeunes, qu'ils jouent vraiment beaucoup, et que j'ai l'impression qu'ils ne jouent pas beaucoup à d'autres choses, qu'ils sortent moins, et qu'ils sont un peu tout le temps devant leurs jeux vidéo. Bon, c'est l'impression que j'ai, en tout cas.
Je pense que c'est bien, mais qu'il faut modérer des fois quand on y joue trop.
Je trouve que c'est sympa, c'est distrayant. Donc, je pratique aussi un petit peu les jeux vidéo, donc... Je trouve ça plutôt pas mal.
Est-ce que vous pratiquez les jeux vidéo et pourquoi?
Oui, je pratique les jeux vidéo. J'y joue tous les soirs avant, quand je rentre du collège. Et j'y joue parce que c'est bien, on est dans une bulle. Et on a notre niveau et notre personnage.
Alors non, je n'ai jamais, jamais, jamais joué à aucun jeu vidéo.
De temps en temps et parce que ça me divertit, quoi. Voilà.
Oui, parce que j'aime bien m'amuser avec mes amis en jouant aux jeux vidéo, puis ça me détend un petit peu.
Les jeux vidéo sont parfois à présenter violents, dangereux pour la santé. Quel est votre avis?
Oui, c'est dangereux car je suis épileptique à cause de la console. C'est dangereux, j'ai été addict et c'est à cause de ça que j'ai été à l'hôpital de nuit, à cause que j'étais épileptique.
Alors, je suis obligée de croire ce que disent les scientifiques parce que je n'ai jamais joué à un jeu vidéo. Apparemment, certains scientifiques pensent que oui, on peut devenir dépendant. Et quant à la violence des jeux vidéo, je ne sais pas vraiment si c'est bon de jouer à des jeux violents régulièrement.
Mon avis, c'est que c'est aux parents de faire attention à regarder à quoi ils jouent et de choisir si c'est bon ou pas.
Oui, c'est vrai. Si on y joue trop souvent, c'est pas bon pour la santé. Vaut mieux aller jouer un peu dehors quand même, c'est mieux. Et puis c'est vrai qu'il y a des jeux qui sont assez violents, avec des images pas très sympas. Donc faut éviter par moment.
C'est à toi, Mamadou. Nous reprenons donc.
Les jeux vidéo ont été créés aux alentours de 1950 avec l'idée de Ravar Berrier. Le début du jeu vidéo est très foufoule. Je prends l'exemple de Oxo, qui est actuellement le Morpion en 1950.
Le meilleur jeu du point de vue de la population est Counter-Strike Global Offensive, qui est un FPS, First Player Shooting, qui se joue avec deux équipes.
Les personnes qui jouent le plus aux jeux vidéo sont les enfants de 10 à 14 ans et 46% pour les personnes de plus de 55 ans. Tandis qu'en 2015, les enfants étaient de 84,2%. On connaissait le 7e art, le cinéma, le 8e art, la télé, le 9e art, la BD. Les jeux vidéo sont devenus ainsi le 10e art.
Le jeu vidéo sportif le plus vendu est FIFA avec 260 millions d'exemplaires vendus. 24 millions de personnes ont déjà acheté FIFA 18, dont 13 millions de Français. Les jeux les plus connus sont GTA V, Minecraft, Fortnite, FIFA et Assassin's Creed. Et c'est tout.
Et c'est tout? Non, vous vouliez de la musique aussi, non?
Oui, on veut.
Et puis même, vous avez été précis sur ce que vous vouliez.
Oui.
Vous vouliez quoi? Il faut vraiment aller vous chercher là ou quoi?
Little Brother.
Eh ben, on s'écoute ça alors. Ça vous va?
Oui.
Body drop all the time, I don't feel nothing. Swear to God, yeah, gon' make me go kill something. So my shooter, no mercy, a chill button. I done been through so much, I don't feel nothing. I was done off the drugs, I made two dead. I was locked in myself, about to lose it. They be watching me, clocking my movement. They be plotting, don't catch me schooling. Body drop all the time, I don't feel nothing. Swear to God, yeah, gon' make me go kill something. Told my shooter no mercy, a chill button. I done been through too much, I don't feel nothing. I was done off the drugs, I made two did. I was locked in myself, about to lose it. They be watching me, clocking my movement. They be buying on gas, be stolen. I be sitting, I make it look easy. I was innocent, they ain't believe me. Ain't no lie, I be seeing illusions. I can't figure who real is confusing. I can't wait to get used to this lifestyle. I remember it could've been lights out. Bitches see me and scream little TJ. Had to fuck up the spot for my B-Day. Hit the telly and catch me in BJ. Fuck his love, I don't want me a skeezy. Gave a dick that she feel like she need me. I'm too high, I was smoking on GZ. Bankroll, had to stack my chips. SB, I'ma jack my shit. I know these niggas gon' hate me. I've been working hard, driving me crazy. Big bag, don't mean everything wavy. I got 99 problems like Jay-Z. Caught a felony, judge had to slay me. Lost my grandmother, RP, maybe. I got money and niggas move shady. With my brother, I put that on baby. I'm a squad, my cop, a Mercedes. I just do every dick and be lazy. Body drop all the time, I don't feel nothing. Swear to God, yeah, gon' make me go kill something. Told my shooter, no mercy, a chill button. I done been through so much, I don't feel nothing. I was done off the drugs, I made two did. I was locked in myself, about to lose it. They be watching me, clocking my movement. They be buying, don't catch me stolen. Body drop all the time, I don't feel nothing. Swear to God, yeah, gon' make me go kill something. Told my shooter, no mercy, a chill button. I done been through so much, I don't feel nothing. I was done off the drugs, I made two did. I was locked in myself, about to lose it. They be watching me, clocking my movement. They be buying, don't catch me stolen. I'ma get to the top. Niggas waiting to take about the drop. Told my mother that I'm destined to pop. Yeah, I ain't think I would get what I got, but I stay true to myself. No losing myself, improve myself. I'm on the road to the riches. I'm asking the Lord for forgiveness. I got two or three options to handle. Y'all be talking, but they never did shit. You'll be better off minding your business. Hard-headed, I just don't like to listen.
Regardless, I stay in the kitchen.
Coming in my poor position. Y'all niggas ain't no competition. Big bag don't mean everything wavy. I got 99 problems like Jay-Z. Caught a felony, judge had to slay me. Lost my grandmother, RP, maybe. I got money and niggas move shady. With my brother, I put that on baby. I'm a squad, my cop, a Mercedes. I just do every dick and be lazy. Body drop all the time, I don't feel nothing. Swear to God, yeah, gon' make me go kill something. Told my shooter, no mercy, a chill button. I done been through so much, I don't feel nothing. I was done off the drugs, I made two did. I was locked in myself, about to lose it. If you clocking my movement, they be buying, don't catch me stolen. Body drop all the time, I don't feel nothing. Swear to God, yeah, gon' make me go kill something. Told my shooter, no mercy, a chill button. I done been through so much, I don't feel nothing. I was done off the drugs, I made two did. I was locked in myself, about to lose it. They be watching me, clocking my movement, they be buying, don't catch me stolen.
Voilà, c'était Lil TJ, c'était une... Oula, 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 ça fait beaucoup de bruit ce truc-là. C'était en tout cas la proposition musicale du groupe précédent. Nous retrouvons maintenant à nos micros Jonathan, Arnold, Enzo et Kylian qui, comme ils ont décidé d'inventer le monde, waouh, eux aussi, ont décidé de nous parler de science et de médecine. Bonjour à vous les gars.
Bonjour.
Bon, ça se passe bien pour vous ?
Oui. Oui.
Bon, vous êtes prêts ? Qu'est-ce que vous nous avez préparé justement ?
Bah alors on a fait... un quiz, un micro-trottoir.
D'accord.
Le quiz, on le fera en deuxième partie. Et le micro-trottoir, on l'a tourné dans le collège de CTP. Et d'ailleurs, est-ce que tu peux l'envoyer ?
Bah carrément, vas-y, je l'envoie.
Pour quelle maladie voulez-vous trouver un remède au plus vite ?
Alors, j'aimerais que ce soit pour le sida, parce que c'est une maladie sexuellement transmissible et qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont concernés par cette maladie.
Eh bien, il y a une maladie qui touche de plus en plus de gens avec le vieillissement de la population, c'est la maladie d'Alzheimer. Et pour l'instant, on n'a pas de lecture et des causes et des moyens d'y remédier. Donc, je pense que ce serait une bonne chose parce que comme la population vieillit, que l'espérance de vie est de plus en plus importante, eh bien, il y aura plus en plus de personnes qui seront confrontées à cette maladie.
Pour moi, ce serait le cancer. C'est une maladie qui touche beaucoup de gens et en général... Enfin, ça touche pas seulement la personne et toutes les personnes autour d'elle aussi.
Pour le cancer, parce que ça touche énormément de personnes. Plein de gens meurent dans l'année à cause d'un cancer, que ce soit sur les poumons, sur différentes parties du corps. Et ça serait bien que le nombre diminue de personnes qui partent.
Bah, je pense que tout le monde est d'accord, le cancer, parce que ça touche plusieurs personnes dans le monde et puis ça peut les tuer et voilà.
D'après la science, le robot est l'amélioration de l'humain. Qu'en pensez-vous ?
Alors effectivement, le robot, on sait que ça peut aider les humains à être améliorés, notamment pour tout ce qui est handicap des membres. Par contre, tout ce qui est lié au nerveux, ça reste quand même l'humain qui doit maîtriser le robot et non l'inverse.
Oui, on peut utiliser le robot pour résoudre des problèmes, notamment par exemple de mobilité, pour des personnes qui ont perdu l'usage d'un de leurs membres, et ça, ça peut être une bonne chose. Et le robot peut aussi, on l'utilise déjà à ma connaissance, dans des interventions chirurgicales, y compris à distance, et ça permet de venir aussi, oui, résoudre des problèmes médicaux. Donc oui, ça peut être une bonne solution.
Non, pour moi, les robots, c'est une mauvaise option parce que un humain, c'est un humain. Genre, on peut pas remplacer ça par un robot. Il a pas la même pensée qu'un humain et tout ça. Donc c'est une mauvaise idée.
Ouais. Non, je suis pas d'accord avec ça parce que après, déjà d'une, les gens ils travailleront plus. Et puis les robots, c'est pas spécialement confiant et voilà quoi.
Bah les robots non, parce que ça va augmenter le chômage en France et il y aura plus de personnes à la rue et puis voilà.
Que pensez-vous du clonage?
Vaste question. Le clonage humain, bien sûr, c'est non, c'est interdit puisqu'on ne devrait pas avoir de personnes qui soient identiques à nous. Par contre, le clonage pour aider les humains à mieux se nourrir, par exemple, ça c'est une bonne chose qui devra se développer dans l'avenir.
Alors, le clonage, ça me semble être un risque pour l'homme, si en tout cas si on l'envisage pour les humains, ça me semble être risqué. Et j'y suis pas favorable, mais pour l'instant, les choses sont relativement limitées par la loi.
Non, les humains, c'est unique. On va pas faire deux fois la même personne. C'est pas une bonne idée.
Je voudrais pas qu'il y ait du clonage parce que un humain est unique. On n'a pas besoin de refaire les mêmes corps et tout ça sur un clone.
Voilà, micro-trottoir réalisé par les élèves de ce groupe. Hein. C'était plutôt pas mal, hein. Intéressant vos questions, vos réponses. Ah, très bien.
Nous venons d'écouter un micro-trottoir tourné au collège des 7 épis et maintenant passons au quiz.
Ah, moi j'attendais ça. Hein.
Le quiz va se dérouler en 3 manches, avec des équipes de 3. La première manche est un quiz à questions à choix multiples, et le premier groupe à lever la main sera interrogé.
Très bien, moi je les ai à l'œil, vu que vous leur faites dos, moi je les ai à l'œil. Ça vous va?
Oui.
C'est Kylian, parti, alors.
Kylian, à toi.
Combien de temps mettons-nous à digérer? 2 heures, 3 heures ou 6 heures?
Hop, ici.
Moi je dirais 3 heures.
Bonne réponse.
Quel organe peut-on greffer? Un cerveau, un troisième bras ou un pied?
Un cerveau, un troisième pied.
Un troisième bras ou un pied?
Oui, un troisième bras ou un pied. Hop, ici.
Un bras.
Un bras, un troisième bras.
Non, c'était un pied.
Ah, c'était un pied. Ça aurait été pratique pourtant.
Alors, combien de dents avons-nous à l'âge adulte? 16, 24 ou 32?
C'est là.
32.
Ouais, 32.
C'est ça.
Combien de neurones a-t-on à taille adulte? Moins de 100, moins d'un million, 100 milliards.
Ici.
100 milliards, non?
100 milliards.
C'est ça. La deuxième manche est un quiz à questions simples. Soyez le premier à lever la main.
Le daltonisme touche plus d'hommes que de femmes.
Le daltonisme touche plus d'hommes que de femmes?
Bah, moi je dirais que c'est vrai.
C'est une bonne réponse.
Alors, combien d'os avons-nous dans notre corps à l'âge adulte? À 5 os près.
À 5 os près, combien d'os avons-nous dans notre corps?
100.
100?
Non. Plus.
200?
200?
Un peu plus.
250?
Moins.
240?
Moins. 230. La réponse était 206.
Ah, c'est dommage, à 5 près, 200, on était pas mal, mais c'était 206. Pas de point.
Alors, pendant combien de temps la drogue est-elle détectable dans le sang?
24 heures. Un mois?
Ouais, c'est un mois.
C'est un mois.
Est-ce que l'univers est fini?
Est-ce que l'univers est fini?
Infini.
Non.
Non, il est infini.
Non.
Je oui. Oui. Bah en fait ça dépend. Ça se trouve il y aura des. Ah. Ça se trouve il y aura des astéroïdes.
Non, l'univers est fini.
L'univers est fini, bah voilà.
La dernière manche est un quiz avec des énigmes.
Ah, avec des énigmes. Oui. Attention, avec des énigmes.
Alors, je flotte sous la terre, je peux la faire trembler, qui suis-je?
Je flotte sous la terre, je peux la faire trembler, qui suis-je?
Des plaques tectoniques.
C'est une bonne réponse.
Oh! Alors, j'ai changé le monde il y a 13 milliards d'années. Qui suis-je?
J'ai changé le monde il y a 13 milliards d'années. Qui suis-je?
Les dinosaures.
Non.
C'était bien essayé, c'était bien essayé.
C'était le Big Bang.
Le Big Bang, bah oui, forcément le Big Bang.
Alors, j'ai été le premier cas de daltonisme à publier mon ressenti. Qui suis-je?
Le premier cas de daltonisme à publier son ressenti. Là, c'est Longo. Oui.
John Dalton. Ouais, c'est ça.
Ah ouais, bien joué. La réponse était donc, bien dans le micro.
John Dalton.
John Dalton, bah oui, forcément.
Je suis né dans un laboratoire, je me gère tout seul, je suis la future technologie dans les voitures, les téléphones, les maisons. Qui suis-je?
C'est super autonome, là.
Un robot?
Presque.
Presque un robot, mais pas tout à fait un robot. Nous n'irons pas plus loin.
C'était l'intelligence artificielle.
Ben oui, forcément.
Voilà, c'est bon.
Alors, merci à tous les participants. Et maintenant, je vais vous annoncer le grand gagnant de ce petit quiz. Et le grand gagnant est le groupe de Léna et Camille. Bravo.
Eh oui, comme vous me voyez, c'est moi qui suis en train de me faire déborder, hein. Vous l'avez compris, non? Nous avions demandé une pause musicale à nos jeunes qui nous l'ont fournie. Non, c'est la professeure de documentaliste du CDI, du Collège des Sept Épis, qui nous l'a proposé. Et alors, nous sommes en train de la chercher parce que forcément, moi, j'étais complètement plongé par... Allez-y, Madame Pinson, cliquez donc là où vous souhaitez cliquer. Donc ils participent tous à la pause musicale et c'est Madame Pinson, la professeure documentaliste du Collège des Sept Épis dont nous avons les 4e F aujourd'hui avec nous qui aura choisi cette pause musicale. Oncle Bill, c'est ça? Bon, on écoute. Non, c'est William Z. Villain. I'm not a credible guy, but I got some incredibly edible eyes, big and bad enough to end a little life like yours. To go finish up your chores. Go finish up your chores. Villain, you look bored. Grows and twilight goes with nimble toes. The crops and rows designed to know the mortal dose of rightly rose. For all the schmoes can't read the prose, just watching shows. Don't catch the throes, don't examine their lives or ever gaze in the fire. And if you're living a lie, you can't be feeling so fine. Cause real folks must hide. There's so much in this world is fear and money, power and control and pride. Thank you. Voilà, nous sommes fait prendre un petit peu de vitesse tout à l'heure, mais finalement tout va bien, hein. Nous avons décidé d'inventer le monde waouh, c'est le thème de cette émission. Et là c'était un titre de William Z. Villene, c'est un choix de Madame Pinson, professeure documentaliste au CDI du collège des Sept Épis, dont les 4e F aujourd'hui prennent la parole pour réinventer le monde waouh. C'était bien là, le choix musical de Madame Pinson ou pas là? Vous adhérez ou bof? Vous avez le droit de le dire. Hein.
Oui. Non, ça va. Oui.
Ça va.
Oui.
Ça va.
Oui.
Bon, ok. Vous avez décidé de prendre le contrôle de cette émission. Me dit non, j'y sais. Laisse pas. Fais pas de lancement. C'est bon. On sait comment faire nous-mêmes. Eh bien, je vous laisse faire, mesdemoiselles.
Eh ben, bonjour. Nous sommes le groupe Échange Humain, Commerce et Communication, et nous allons vous présenter l'interview de Madame Gauthier, qui est une professeure des ULIS au collège des Sept Épis à Saint-André-de-l'Eure.
J'essaie, est-ce que tu peux nous envoyer l'interview?
Ben avec grand plaisir.
Comment avez-vous ressenti l'évolution du téléphone?
Le téléphone, ben je l'ai eu lorsque j'avais 13 ans. Il est arrivé à la maison et c'était un téléphone fixe. Le problème du téléphone fixe, ben c'est qu'on peut pas bouger avec, hein, on reste à la maison. De plus, on payait ce qu'on consommait, donc on devait faire très attention. On apprenait donc à faire attention, à se modérer. Avec le téléphone portable, on peut téléphoner partout, de façon illimitée, en fonction de son forfait, évidemment. Et donc, on ne fait plus attention. C'est bien dommage. Sinon, ce téléphone portable, c'est une très belle invention. Ça permet de rapprocher les gens. Ça permet de joindre les gens n'importe où, n'importe quand. Mais attention, c'est dangereux car on perd un peu de sa liberté.
Comment peut-on envisager le monde de demain sans téléphone?
Je pense qu'il est très difficile de revenir en arrière. Est-ce qu'on pourrait se passer de l'électricité?
Pourriez-vous vivre sans téléphone?
Non, comme je disais précédemment, le téléphone fait partie de notre vie et je pense que ce serait difficile de revenir en arrière.
Quelle est la dernière chose que vous avez faite sur votre téléphone?
J'ai pris des photos. Mais c'est encore pour communiquer, puisque ces photos, je vais les envoyer à des amis pour échanger aussi. Parce que la photo, ça permet aussi de faire des échanges.
Que faites-vous avec votre téléphone?
En premier, je téléphone. Je passe des textos. Je prends des photos de temps en temps, même si elles sont pas de très bonne qualité. Je vais de temps en temps un petit peu sur Internet, hein. Mais j'ai aucune application, je regarde pas de vidéos, pas les trucs de jeunes.
Préférez-vous communiquer par téléphone ou par courrier?
Alors, ce que j'aime par le téléphone, c'est que c'est instantané. On entend la voix de l'autre, donc ça peut être rassurant. On entend s'il va bien, s'il va pas bien. C'est toutes ces choses-là. Mais le courrier, c'est bien aussi, parce qu'on a le temps de réfléchir à ce qu'on a envie de dire. On s'applique, c'est un message que l'on peut garder, qu'on peut relire même des années après. Il y a aussi l'attente, on attend le facteur, on se dit mais qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Je pense que chacun a des avantages et des inconvénients. Si on est pressé, c'est le téléphone.
Maintenant, nous allons vous présenter le micro-trottoir des élèves au sein du collège des Sept Épis de Saint-André-de-l'Eure.
Est-ce que ton téléphone est indispensable?
Oui.
Pourquoi?
Par exemple, si t'es perdu quelque part, ça, avec la map, tu pourrais te retrouver quelque part que t'es perdu.
Oui. Parce que il me sert à parler à mes potes.
Non.
Oui, je m'en sers quand même. Oui, c'est un outil indispensable. Ça reste un outil, mais indispensable.
Le téléphone est un accessoire maintenant indispensable, donc je suppose qu'il va devenir de plus en plus important. Et peut-être que vous savez que dans la science, on dit que le toucher au niveau de l'index droit est en train de se développer parce qu'on utilise de plus en plus nos téléphones.
Tu fais quoi avec ton téléphone?
J'utilise les appels et je vais sur les réseaux sociaux.
Comme quoi?
Snapchat, Instagram. Je vais sur les réseaux sociaux et du genre Snapchat, Instagram.
Ok. Et comment tu réagis si tu perds ton téléphone?
Je panique.
Ok, merci.
Je vais sur les réseaux sociaux et c'est tout.
J'allais sur Internet, je prenais des photos et je téléphonais à des amis.
Alors, je m'en sers pour téléphoner déjà, beaucoup échanger en messagerie, et puis je m'en sers pour travailler, et puis pour les loisirs, je surfe beaucoup sur mon téléphone.
Je regarde des communications que j'ai eues, je regarde mes mails, et puis je fais des recherches sur Internet, voilà.
Comment tu réagis si tu perds ton téléphone ?
Je me suicide. Non, je rigole. Je sais pas. Je regarde la télé.
Je crie sur mes parents.
Alors, c'est la panique totale. Totale, j'ai plein de... Je stocke beaucoup de choses sur mon téléphone. Alors, comme ça m'est déjà arrivé, maintenant je suis prudent et donc j'ai un cloud sur lequel je stocke le double de mes informations, tous mes contacts, mes messages et mes dossiers.
Ça m'est déjà arrivé, ça va, je suis pas morte. Non, mais j'en prends, j'attends de le retrouver. Et puis sinon, j'en ai un autre qui est beaucoup moins performant, mais que je prends au cas où.
Je serais embêtée, surtout à cause des photos qu'il y a à l'intérieur. Alors avant, il y avait les dinosaures et il n'y avait pas d'électricité, mais j'étais pas encore née. Donc j'ai quand même eu un téléphone assez rapidement, mais quand on n'avait pas de téléphone portable, on faisait ça, on envoyait des courriers et on prenait pas de photos avec notre téléphone, on avait un appareil photo.
Nous vous remercions d'avoir écouté l'interview de Madame Gauthier et le micro-trottoir. Merci d'avoir écouté Camille, Léna, Mélissa et Oksana.
Direct avec les élèves de la 4e F du collège des 7 épis à Saint-André-de-l'Eure. Le thème de l'émission, c'est inventer le monde. Waouh! Depuis le début, il y a le waouh en plus et c'est ce qui change tout dans notre invention du monde. Nous ne pouvions pas inventer le monde sans parler de solidarité. Nous avons justement en plateau Léna, Oksana, Mélissa et Camille. Non, pardon. Ça, arrêtez de me faire des noms, dites-moi tout.
Non, c'est pas comme ça.
Bon, c'est pas comme ça.
Non.
Dites-moi tout alors. Vous ne dites rien aussi.
Bah,
Mais non, on parlait de solidarité. Ah non, pardon, je vous avais pas dans mon... Pardon, excusez-moi, c'était juste le groupe d'avant, excusez-moi. Oh là là, je vous fais un lancement nul en fait, hein.
Oui.
Oui, hein, bah, dites-le franchement, bah, lancez-vous vous-même alors, mademoiselle.
Donc, nous allons vous parler de la solidarité. Pour ça, nous avons fait un micro-trottoir et nous allons interviewer une personne de l'association de la Croix-Rouge.
Ouais, ça c'est cool.
J'y sais, est-ce que tu peux nous envoyer le micro-trottoir qui a été enregistré au collège de Saint-Épi?
Bah tout à fait, avec plaisir même.
Qu'est-ce que vous pensez d'une loi pour participer obligatoirement à une association à partir de 18 ans ?
L'investissement dans les associations, c'est tellement d'énergie et de temps que si les gens sont volontaires, ça marchera beaucoup mieux que si on les oblige. Parce que je fais partie d'associations et c'est sans limite. Quand on est vraiment investi, il faut vraiment avoir beaucoup de temps et beaucoup d'envie et beaucoup d'idées. Donc l'imposer, j'y crois pas du tout.
Ce que j'en pense, si c'est bien ou pas. Bah non, je pense qu'il faut laisser les gens décider parce que c'est quand même quelque chose de particulier. C'est un engagement personnel quand même.
Je vois pas pourquoi on serait obligé de participer à quelque chose, mais ça serait bien, oui, de s'investir dans un projet ou avec des gens pour un sujet qui nous intéresse. Ouais, je trouve ça quand même intéressant.
Eh bien, je trouve que c'est une très bonne idée. Je pense que les jeunes, effectivement, doivent s'investir dans des associations, apprendre à s'occuper du monde autour d'eux pour ensuite mieux comprendre les enjeux, tout ce que ça implique d'être investi dans une ville, par exemple, dans une association.
Que pensez-vous des cours d'empathie dans d'autres pays ?
Pourquoi pas ? C'est vrai, pourquoi pas, j'y ai jamais pensé, mais penser aux autres et s'inquiéter pour les autres, c'est important et on devrait tous se poser cette question, alors l'obliger, pourquoi pas.
C'est une valeur importante que tout le monde ne possède pas, donc pourquoi pas, j'ignorais qu'on pouvait donner des cours d'empathie, je pense que ça peut être intéressant.
Je savais pas que ça existait. Bah ouais, ça peut être bien, ça dépend de pour former les jeunes, oui, pour qu'ils apprennent à penser aux autres.
Des cours d'empathie, comment ça ?
C'est des cours pour apprendre aux gens d'aider les autres.
Ça, je trouverais ça génial. Et je pense que ça serait intéressant d'abord de le faire chez nous, parce que dans certains pays, ils l'ont déjà, alors que nous, on ne l'a pas forcément.
D'après vous, que veut dire solidarité ?
C'est penser surtout au groupe avant de penser à soi. Et puis s'entraider, et puis s'écouter, et se respecter.
La solidarité, c'est le sens du bien commun, c'est être capable de s'investir pour les autres. C'est une valeur essentielle à la société.
S'entraider, aider ceux qui ont besoin. Ouais, être là pour les autres.
C'est quelque chose qu'on a comme ici, par exemple. Vous l'avez sur avec certains professeurs ou certains surveillants, hein, d'être solidaire quand il y a quelque chose qui va pas ou qui va. Il faut être solidaire, il ne faut pas même entre vous.
Aider son prochain, s'aider et s'accepter comme on est.
Quand on est tous ensemble.
Comme les Noirs.
C'est la gentillesse entre humains.
Et les Marocains aussi. Mais parfois c'est très difficile les Marocains. Parce que en fait.
La communication du Congo.
La République démocratique du Congo. Hashtag Kinshasa. J'ai pas fini.
C'est l'entraide envers les personnes.
Ouais, vas-y.
Ça veut dire qu'on est ensemble.
Entraide.
C'est bon.
Bah oui, c'est l'entraide. Là, c'est un registre. Ouais.
La solidarité de la France. Je sais pas moi.
J'ai l'intelligence là un peu.
Non.
L'égalité avec les couleurs des.
Mais tu fais ça.
Et maintenant, on se retrouve avec un bénévole de la Croix-Rouge. Bonjour Didier Courty.
Bonjour.
Que faites-vous au sein de l'association de la Croix-Rouge?
Alors, moi, en priorité, je suis secouriste au sein de la Croix-Rouge et je suis aussi formateur secouriste. Donc, je forme les gens au secours. Je suis chef d'intervention et responsable jeunesse du département territorial. Et de temps en temps, je donne un coup de main aussi à la vestiboutique et à la banque alimentaire. Voilà.
Pouvez-vous parler des deux activités de la Croix-Rouge, dont la distribution et la maraude?
Alors, la distribution alimentaire, c'est une fois par semaine à peu près. C'est la Banque alimentaire d'Évreux qui nous livre, où on va chercher les colis là-bas. Et alors, on les redistribue directement aux unités locales. Et la maraude sur Évreux, eh ben, ça se fait surtout en hiver. Là, il n'y en a presque plus non plus, puisqu'on est, maintenant en été. Enfin, au printemps, du moins. Et les maraudes servent à, justement, avec la banque alimentaire, à alimenter les personnes qui sont dehors, en couverture, et puis en boisson chaude ou en aliment solide.
Depuis quand êtes-vous actif dans l'association?
Alors, moi, ça fait 4 ans et demi que j'y suis.
Quelles sont les personnes qui viennent le plus souvent à la Croix-Rouge? Est-ce que ce sont plus les familles ou les personnes seules?
Alors, il y a plusieurs catégories de personnes accompagnées. On les nomme ainsi à la Croix-Rouge. Hein. On les nomme ainsi plusieurs personnes qui viennent chercher de l'aide, des personnes seules, mais aussi des personnes, des familles avec des enfants ou accompagnées.
Combien y a-t-il de bénévoles à la Croix-Rouge?
Combien y a-t-il de bénévoles à la Croix-Rouge? Alors, sur le département de l'Eure, on est 450 bénévoles. À l'unité locale donc d'Évreux, donc il y en a 7, il y a 7 unités locales dans le département. Et à l'unité locale d'Évreux, il y a 70 bénévoles. Et au total en France, il y a à peu près 56 000 bénévoles.
Quel sentiment vous apporte le fait d'aider les gens?
Alors, quel sentiment? Alors, quand tu aides les autres, tu as une plus grande estime de soi, de toi. Je satisfais certaines de nos valeurs, aussi bien Croix-Rouge que humanitaire, qui sont importantes dans notre vision du monde.
Est-ce que vous pensez que c'est normal, au XXIe siècle, d'avoir encore des associations comme la Croix-Rouge et d'autres associations comme ça?
Oui, bien sûr. Alors, vous savez, il y a toujours eu des personnes en précarité, les riches, les pauvres, ça existe depuis longtemps, c'est pas d'aujourd'hui, et il y en aura toujours, et donc nous aurons toujours besoin de ces associations, pour aider justement toute personne.
Comment est respectée la dignité des personnes quand ils viennent à la Croix-Rouge?
Alors, les bénévoles qui viennent à la Croix-Rouge, et nous, on se doit respecter les 7 principes de la Croix-Rouge, qui est l'humanité, l'impartialité, la neutralité, l'indépendance, le volontariat, l'unité et l'université. Ce qui veut dire qu'il faut avoir le plus grand respect de chacun, sans prendre parti, sans préjugés, sans discrimination non plus.
Y a-t-il plus de bénéficiaires qu'avant?
Alors, oui, il y a toujours eu des personnes en situation de précarité. Le nombre de personnes accompagnées augmente dans l'activité distribution alimentaire. Mais ce chiffre varie en fonction des mois et des villes où sont implantées nos unités locales.
Pourquoi vous vous êtes investi dans la Croix-Rouge?
Pourquoi je me suis investi dans la Croix-Rouge? Alors, il y a de nombreuses choses à faire en France. Dans l'international, et qui peuvent nous faire nous sentir bien, c'est un bien-être. Une sensation, une entente qui n'est comparable à aucune autre, puisque dans la Croix-Rouge, et on a plusieurs métiers, il y a plusieurs personnes qui sont avec plusieurs métiers, et arrivés à la Croix-Rouge, eh ben, nous sommes tous pareils, nous sommes tous égaux, et on est là pour la même raison.
Merci Monsieur Didier Courty, bénévole de la Croix-Rouge, pour avoir répondu à nos questions, qui, on espère, a aidé nos auditeurs à comprendre le but de la solidarité.
Je vous en prie, merci beaucoup à vous.
toutes les bonnes choses ont une fin, malheureusement. Il est l'heure de conclure. Alors dites-nous tout pour la conclusion. Qui c'est qui va conclure? Pourquoi? Comment? Est-ce qu'on pourrait inverser juste les deux micros là pour la conclusion? C'est souvent comme ça que ça se passe, hein, voilà, au dernier moment. Voilà. Alors, dites-nous tout. Comment est-ce qu'on va conclure cette émission?
Alors pour nous, inventer le monde waouh se résume à ça.
On espère que ça vous a plu. En tout cas, nous nous sommes bien amusés.
Merci à l'équipe de Principe Actif de nous avoir accueillis et formés durant ces mois.
Bon, et puis pour de vrai, ça s'est passé comment alors? Parce que c'est ça qu'on veut aussi, de la vraie vie, là. Vous me faites une belle conclusion, une conclusion très radiophonique. Mais alors, ça s'est passé comment pour de vrai?
Bah, on était un peu stressés, mais après, quand on parle, bah, on est à l'aise et c'était trop bien.
Ah bah oui, quand même, hein. Quelqu'un veut rajouter un petit mot, dire un petit quelque chose? C'était comment alors tout ça?
Bah, c'était bien.
Est-ce que c'était waouh?
Oui.
Ah,
oui.
Ouais, mais t'as dit que c'était bien.
Mais on avait, oui, comme disait Mélina, on avait du stress au début.
Très
après,
bien.
Quand on le fait, tout redescend. Voilà.
Ouais, eh ben super. Bien. Eh ben merci beaucoup à vous, à tous ces élèves de 4e F du collège Sétépi de Saint-André d'avoir inventé le monde.
Waouh!
C'était impressionnant quand même.